Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Daggerland. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, imaginé par Tolkien, c'est le nom donné à la plaine de la bataille. Mais dans notre univers, à vrai dire parfois à peine moins imaginaire, Daggerland est le nom d'une compagnie d'arts martiaux historiques européens. Une compagnie située à Pont-de-Buy, elle réunit des passionnés qui organisent ce week-end un stage consacré à la pratique d'armes aujourd'hui délaissées. Bon, moi j'ai hâte d'en savoir plus sur ces gens et leur drôle de pratique. Allez, je vous amène faire leur connaissance. Oula, c'est bruyant ici. Allons voir plutôt par là. Bon, pas mieux. Alors, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Quasiment tous les hommes ici portent la barbe et les cheveux longs. Ah, là-bas, silhouette de lutteur, barbe fournie. C'est mon rendez-vous.
Bonjour, moi je m'appelle Frédéric Tual, je suis animateur de lutte, notamment au sein de la compagnie Daggerland, et je suis aussi le président de l'association depuis cette année. Alors aujourd'hui on est donc à Pont-de-Buy, au gymnase de Pont-de-Buy, et en fait on est en plein cœur de notre stage annuel. Donc tous les ans la compagnie Daggerland organise un stage annuel d'AMHE, donc arts martiaux historiques européens, en invitant des animateurs externes qui viennent un peu partout de France et aussi des gens d'ici qui viennent présenter des ateliers autour d'armes particulières. Donc là en ce moment on a différents ateliers, on a un atelier ce qu'on appelle montanté avec un animateur qui vient de Dijon. Alors une montanté c'est une grande épée à deux mains et c'est une arme très impressionnante, très dissuasive et très dangereuse évidemment. Et puis en parallèle on a un animateur qui vient d'Orléans qui lui vient nous présenter un travail autour de la rapière ibérique qu'on appelle la destreza au XVIe siècle, essentiellement XVIe, XVIIe siècle. Mais aussi une autre personne, Marco de Dijon, qui va présenter lui ce qu'on appelle épée de côté rondache en français, donc qui est une espèce de grand bouclier. Il y a également du maniement du bâton, il y a de la hallebarde, de l'épée longue, et puis on aura du sabre. On a une animatrice qui va nous faire un atelier autour de la canne au 19e siècle. Donc on va couvrir en fait énormément de siècles pour le coup. Donc l'intérêt de ces stages est à la fois de rencontrer ces gens qui viennent présenter quelque chose qu'on ne fait pas forcément, avoir peut-être une interprétation différente, donc à partir des mêmes sources, par exemple, et puis de pouvoir avancer encore un peu plus sur nos réflexions, sur nos recherches, et puis aussi de se mettre un petit peu dessus à coup d'épée. C'est quand même rigolo de pouvoir aller affronter d'autres adversaires, d'autres partenaires qui ne pratiquent pas forcément de la même manière que nous.
Les arts martiaux historiques européens, est-ce qu'on en trouve une définition officielle? Du côté de la Fédération française de la discipline, on évoque, ouvrez les guillemets, l'étude d'arts martiaux ayant existé en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à la fin de l'histoire. Fermez les guillemets. Eh bien, je crois que le mieux est encore d'aller leur demander quelle est leur définition des AMHE à ces étudiants d'un nouveau genre.
Les AMHE, en fait, c'est un mélange de sport et d'histoire. L'idée, c'est qu'on va étudier la façon de se battre avec certaines armes à une certaine époque en utilisant des sources historiques.
Pour moi, les AMHE, c'est l'étude, y compris par la mise en pratique physique, des sources qui parlent, donc sources directes ou indirectes, qui parlent du combat en Europe. Donc la tradition doit être arrêtée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier quelque chose de manière historique si c'est encore là. Il faut qu'on ait des sources, alors ça peut être tout n'importe quoi, un squelette blessé, un écrit.
Il y a ce double aspect à la fois de pratique, de bagarre, comme on dit entre nous pour rigoler, mais en même temps il y a aussi l'étude de sources, c'est qu'on lit des documents un peu anciens, les grands maîtres de il y a 400 ans, qui sont parfois sujets à interprétation. Chacun a un avis sur comment on peut interpréter ci ou ça. On teste empiriquement, on regarde ce qui marche moins bien, et on essaye tous ensemble de progresser.
Une fois qu'on a les sources, généralement, il faut les traduire. Une fois qu'elles ont été traduites, il faut les interpréter. Parce que le texte en soi ne suffit pas forcément. Il peut y avoir plein de manquements. Le maître d'armes, il ne va pas tout mettre ses secrets dedans. Et comme ce sont des choses qui ont disparu, on est obligé, qu'il n'y a pas de continuité jusqu'à nous, on est obligé de faire une interprétation.
Il faut donc avoir un aspect où on cherche à comprendre la culture, les gestes, la démarche qu'ils pouvaient avoir dans le passé, et un aspect où on cherche vraiment du travail biomécanique, du travail athlétique, du travail de précision, de coordination. Et on doit essayer de combiner les deux pour essayer de se rapprocher de ce qu'a pu être telle ou telle activité à une certaine époque. Sachant que nous ne sommes pas des gens du 16e, du 15e ou du 18e siècle, donc on ne pourra jamais atteindre totalement. Je cherche juste à en avoir une idée.
Voilà. Donc c'est l'étude et la reconstitution du geste selon un contexte et sur la base de sources et d'éléments historiques. Histoire avec un grand H. C'est tenter d'avoir une approche la plus scientifique de l'art du combat dans l'histoire. Voilà. Reconstituer l'art du combat qui était pratiqué, qu'il soit ludique, donc au sens sportif, mais au sens loisir également, donc martial pur et dur, on va dire au sens guerrier, tout ce qui touche à l'art du combat de façon générale.
Justement, c'est cette mise en pratique des hypothèses qu'on se formule par rapport aux sources qu'on a étudiées, et puis on va les tester par une pratique sportive. Et moi, je trouve ça très très intéressant et très novateur, on va dire, comme approche. Et c'est pas souvent qu'on voit ce genre de choses. Et moi, j'aime beaucoup cette conjugaison, finalement, entre d'un côté la recherche historique pure et puis la pratique sportive, vraiment, qui peut être très intense dans un certain nombre de cas.
Ah bah, ça peut être très, très physique, hein, et il ne faut pas se leurrer. Mais il y a quand même dans les AMHE ce truc qu'on peut réguler en fait, notre entraînement. Si on est un peu plus fatigué, on va peut-être étudier un peu plus la source. Si on est plus en forme ou qu'on a besoin d'aller se dépenser, et donc là, on peut faire des séances beaucoup plus poussées physiquement.
En général, on vient soit parce qu'on est fan d'histoire, et qu'on a besoin de continuer à nourrir notre réflexion autour de l'histoire, soit effectivement ça va venir plutôt par le sport, je dirais plus que par le combat, parce qu'il y a une vraie intensité physique qu'on va mettre dedans. Il faut avoir une appétence pour les arts martiaux de manière générale. Hein. C'est vraiment les deux points d'entrée.
Moi j'adore l'histoire, j'ai fait une formation en histoire, une licence, et je compte retourner pour faire un master. Donc il y a le côté historique, et moi ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les idées que les contemporains des sources écrites, donc les anciens, ont sur le combat, sur l'aspect physique en fait, du combat, et sur comment est-ce qu'on peut le légitimer. C'est vraiment ça qui m'intéresse au fond dans les AMHE, y compris se battre, parce que j'adore me battre, comme beaucoup de gens ici. Mais c'est vraiment l'idée de comment est-ce qu'on légitime une pratique, comment est-ce qu'on crée une pratique, et dans quel contexte on va pratiquer du combat, de la rixe, du duel. Donc c'est vraiment ce fond-là qui m'intéresse au maximum, on va dire, dans les AMHE. Et puis voir les copains, boire des bières et puis se latter, c'est bien ça aussi.
Après, je pense que les gens comme ne connaissent pas forcément, on reste une activité encore de niche. Il y a un peu moins de 2000 adhérents en France. Donc il y a une surprise, et parfois par curiosité, les gens viennent. Ils ne sont pas forcément des fans d'histoire, pas forcément des très grands sportifs, et qui trouvent ici quelque chose qui leur plaît, et donc du coup ils restent.
En fait, je suis venue au forum des associations de Pont-de-Buis pour chercher une activité pour mon fils, et puis je suis tombée sur ce stand bardé d'épées, d'armes diverses et variées, et il y avait même quelques morceaux d'armure, et puis des frappadingues qui agitaient ces armes dans tous les sens, là, dans un coin. J'ai trouvé ça rigolo. Et puis, quand on m'a un peu présenté ce que c'était que les AMHE, je me suis dit, chiche.
D'accord. On y vient par curiosité, ou bien parce qu'on est féru d'histoire. Ou encore, parce qu'on recherche des sensations fortes et de la dépense physique. Mais est-ce qu'il y aura encore d'autres raisons?
On est tous marqués, je pense, par un imaginaire. Moi, ça a été les Trois Mousquetaires, ça a été Cyrano de Bergerac, et donc j'avais un attrait particulier pour cette période-là.
J'ai toujours bien aimé l'histoire, et puis j'aime bien les films d'heroic fantasy aussi, tout ça, donc je trouvais que c'était en lien aussi avec mes passions dans ce domaine-là, dans les jeux vidéo et les films.
Et puis, depuis toujours, les épées, les chevaliers, Conan le barbare, enfin tout ça. C'est un truc qui me plaisait.
Moi, je suis venu aux AMHE par l'Heroic Fantasy. C'est-à-dire que j'étais fan du Seigneur des Anneaux et je voulais apprendre à me battre comme dans le Seigneur des Anneaux avec une épée.
Au départ, quand je suis venu dans le club à Pont-de-Buis, c'était plutôt l'épée au départ qui m'intéressait parce que j'avais un peu l'image des films, évidemment, avec des personnages, je pense à Aragorn par exemple, évidemment, le Seigneur des Anneaux, qui sont très puissants, qui ont une épée qui manie très très bien.
Le corps du Gondor.
La bataille commence.
Trouvez le Sabillon.
Monsieur Frodon. Allez-y, Aragorn.
La pop culture, bien sûr, mais oui. Merci, Tolkien. Et vous savez quoi? Vu le nombre de rôlistes, c'est-à-dire de pratiquants de jeux de rôle, et de maîtres de jeu présents dans la compagnie, j'aurais dû m'en douter. Et puis ça fait quoi? Allez, une vingtaine d'années que les AMHE existent en France. Ils sont contemporains de l'Internet, ce qui a permis l'accès aux traités anciens, nouvellement numérisés, et ce qui a rassemblé les fans sur les forums. Eh bien moi, ça me fait penser un peu à Guédelon. Vous savez, ce chantier expérimental qui a débuté au tournant des années 2000, un chantier de construction d'un château fort selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Un voyage dans le temps.
Et donc, le parrain des postes, le principe, c'est de ne pas faire pat, pat, mais... Vas-y, mets-moi un coup, un vrai coup. Dans le même mouvement, pat, pat. Ouais, et de l'autre côté, ça marche aussi. Mets-moi un coup là. Vous voyez le principe? Le but, c'est d'aller vraiment vite. Il me met un coup, et comme je suis, moi, bras plié, il est à distance, et je viens de l'arrêter. Quand il veut me mettre un coup et que je pars, moi, je reste au fer, et je vais mettre un coup. Ouais. On essaye par la riposte. D'accord, je change de sens. Je pars à contre, je remets comme ça. Je pars à contre, je remets de l'autre côté. Ouais, si je pars à l'intérieur, je remets à l'intérieur. Si je pars à l'extérieur, je remets à l'extérieur. Ouais. Action, changer de partenaire, je lui dis pour l'échangisme pédagogique.
Je m'appelle Alcino, j'ai 50 ans cette année. Je pratique les AMHE depuis 2017. Je pratique l'épée longue surtout. Et puis depuis 3 ans, j'ai eu des soucis avec une épaule. Et du coup, l'épée longue, c'est un peu fini. Donc je fais surtout du sabre et de l'épée basket hilt, de l'épée panier écossaise. La broadsword écossaise, c'est l'épée des Highlanders. C'est comme une épée, mais avec un panier qui protège entièrement la main. C'est l'épée du Highlander, pour donner une image. Rob McGregor, c'est ça l'arme qu'il a.
Donc toi, maintenant, tu es instructeur de sabre et...
Modestement instructeur. Enfin, je n'ai pas la prétention d'en savoir plus que les autres. C'est juste, j'ai un petit peu d'avance sur la lecture, parce que j'ai lu les traités avant d'autres, et donc je leur dis ce que le traité raconte. Mais instructeur, c'est, enfin, on n'a pas de grade au club. Tout le monde est l'égal de tout le monde. Il y a pas de, c'est vraiment, enfin, tout est démocratique. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dan, il n'y a pas de ceinture. C'est vraiment chacun essaye d'apprendre, de progresser, de participer à l'élaboration collective des savoirs. Enfin, on partage des traités. La règle, c'est ça. N'importe qui peut proposer une leçon. La seule obligation, c'est que tu dois avoir lu les sources. C'est-à-dire, si ta fabule. Si tu dis « moi je pense que » parce que « moi je pense que », enfin, les opinions, tout le monde en a, mais la seule règle, c'est que si tu veux pouvoir donner un avis, il faut que ce soit un avis éclairé quand même. Donc le minimum, c'est que tu fais l'effort de lire les sources, de voir ce que disent les traités, et ensuite, on est ouvert à discussion. On essaie de faire un truc un peu sérieux, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du combat chorégraphié comme à la télé, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre réellement comment on utilise une arme. Pour chaque arme, quelles sont les caractéristiques de l'arme qui influent sur la façon dont on l'utilise. On discutait tout à l'heure avec des copains du club de Pont-de-Buis sur la relation qu'on peut faire, par exemple, entre la maîtrise du travail de l'acier, la complexité du développement des gardes des épées, la partie qui protège la main, et la posture qu'on prend pour telle ou telle arme. Et on s'aperçoit, par exemple, que plus la garde est développée, plus la main avance dans la posture. Et donc c'est un truc qui nous saute à l'œil comme ça quand on regarde, quand on compare en fait les armes de différentes époques, quand on compare la façon de se tenir avec les armes, ben ça fait partie des AMHE aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre réellement pourquoi ils faisaient d'une façon et pas d'une autre. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ce que fait tel héros de personnage dans une série télé, par exemple. Pourquoi on n'aurait pas fait ça dans la vie réelle. Je donne l'exemple qu'on donne souvent les pratiquants d'AMHE. Il y a toujours une scène dans les duels à l'épée où les deux adversaires se regardent dans les yeux en appuyant très très fort sur l'épée de l'autre. N'importe quel pratiquant sait que c'est impossible en fait. C'est-à-dire que dans la vie réelle, si quelqu'un appuie sur mon épée, la meilleure parade contre ça, c'est de le laisser passer en fait. C'est de ne surtout pas s'opposer, de le laisser passer, de me dérober et puis de lui mettre un coup de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'on voit dans les séries télé et la pratique réelle, raisonnée, à partir de traités.
Là, c'était bien. Vas-y, encore. Qu'est-ce que t'as crié, ça ? Je ne sais pas la prendre à la tête. Ouais, attention, j'aurais pu toucher le...
J'ai pas assez baissé, ouais. En fait. Vas-y, encore.
En une ?
Ouais. On inverse ?
Ouais. Ta jambe droite, pas bouger. Ta jambe gauche, elle y reste.
Attaque en bas.
Tends ton épée, tends ton bras, tourne tes mains, là. Voilà. Là, elle n'a pas le choix de décrocher pour continuer à attaquer. Elle sait qu'elle va avoir du mal à aller à ton attaque ici parce que le bouclier est déjà protégé. Là, c'est pas trop mal, mais tu peux juste... Non, bouge pas. Lui, bouge pas. Même il reste un peu fléchi, tu peux même laisser ton poids sur cette jambe-là. Ok ? Tu décales ton bouclier, ton bouclier et ton épée. Pour parer, tourne un peu plus ta main, envoie-la vers l'adversaire. En fait. Voilà, envoie plus même vers l'adversaire. Voilà. Là, tu l'as neutralisé et là, tu as ouvert. Vu qu'elle a un bouclier qui la protège là-haut, tu ne peux pas tourner la pointe juste en haut. Tu attaques à sa jambe. Non. En marchant.
Thomas Brasmuller, je suis instructeur d'AMHE au club de Saint-Jean-de-la-Ruelle près d'Orléans. Je donne des cours de rapière selon la tradition espagnole dite Verdadera Destreza, mais également l'ensemble des armes communes de la péninsule ibérique entre les 16e et 17e siècles. Alors un combat avec une rapière, c'est un combat en général qui va être un duel, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... Les combats de rapière ne sont pas des combats militaires. On n'est pas dans l'esprit de tomber... On peut tomber face à plusieurs. La tradition espagnole parle d'une escrime qui est faite pour protéger sa vie, beaucoup plus que pour tuer. Donc ils n'ont pas forcément l'idée de gagner un combat vraiment très codifié, une affaire d'honneur. Ça peut être se sortir d'une embuscade. Mais la plupart du temps, c'est davantage le combat en un contre un qu'on va chercher. Donc on va prendre son temps. On va essayer d'analyser l'adversaire, on va essayer de sentir, essayer de trouver une faille. On n'est pas comme au sabre à essayer de chercher à l'action la plus rapide. On prend beaucoup plus le temps d'analyser parce que la rapière est une arme qui peut se rediriger facilement. C'est-à-dire que la pointe de la rapière est capable de faire des tours et de revenir en ligne de façon tellement rapide qu'il faut être sûr d'en avoir le contrôle pour pouvoir placer une attaque ou placer un désarmement. Il est important de percevoir les mouvements de l'autre. Il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est de percevoir la position de son épée. Soit on a suffisamment de distance pour la voir en visuel, soit les deux adversaires sont rapprochés à tel point qu'il faut avoir le contact de l'épée contre l'épée de l'adversaire pour être sûr de savoir où elle se trouve. Et on cherche à ne pas la perdre. L'autre chose, c'est de savoir en parallèle où est le corps de l'adversaire. Parce qu'il peut toujours s'être tourné, avoir laissé son bras être sur le côté, pour se déplacer, se mettre dans une position favorable, et encore une fois, réaligner son bras et se retrouver en grand danger. Pour cela, il faut donc non seulement suivre le mouvement de la rapière avec le contact du fer, mais observer son adversaire, en général, en ayant le regard fixé sur sa ligne d'épaule, pour pouvoir suivre les déplacements de son corps.
La canne ne plie pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas transpercer des gens, elle ne va pas les découper, mais par contre elle va très facilement fracasser des os, fracasser des têtes. Là où une épée fait quand même en moyenne un peu moins d'un kilo pour une épée à une main. Il faut imaginer que la canne fait à peine 400 grammes. Donc c'est une arme très véloce et comme j'ai dit, elle ne plie pas, c'est-à-dire l'impact est direct. La canne 19e en soi se pratiquait à l'époque en salle, sous forme de jeu et également de défense de rue, tout simplement. Quand vous aviez, et mine de rien, il faut savoir à l'époque, chaque homme avait une canne sur soi, ou au moins un parapluie. Donc, on sortait jamais sans, et mine de rien, quand on sait la pratiquer, ça devient très vite une arme pour se défendre face à, par exemple, dans mon cas, dans mon atelier, à un apache qui venait vous chercher des noises parce que vous êtes un peu trop bien habillé, monsieur. Donnez-moi votre portefeuille, donnez-moi vos bijoux. Les ruelles sombres existaient quand même. Ça permettait quand même de savoir se défendre.
Hop, hop, hop. Hey, bonjour, là. Rentrez chez vous. Tu rigoles ou quoi?
Oui.
Ouais.
Ah oui,
bon. Ouais. Mais t'as
fait t'es suicidé, toi.
Moi, je serais parti.
Alors, je répète, vous voulez rentrer en vie chez vous.
Je suis Aurélien Josselin, voilà, donc ça fait à peu près 10 ans maintenant que je fais des AMHE. Et du coup, là, moi, au sein du club, depuis plus de 2 ans, je donne des cours sur une arme qui s'appelle la hache noble. Voilà, donc une arme médiévale. Alors c'est une arme en fait qui fait à peu près la taille du porteur, avec d'un côté un taillant, donc c'est-à-dire une hache proprement dit, et alors une autre pointe qu'on appelle le bec de faucon ou bec de corbin, ça dépend un peu des sources, qui sert à perforer l'armure, enfin du moins qui essaye de perforer l'armure, ainsi que une pointe qu'on appelle la dague, et de l'autre côté, vers le pied de l'arme, on a très souvent des pointes. Donc il y a des points des deux côtés en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc pour essayer de passer dans les failles d'une armure de plaque de la fin du Moyen-Âge. Le combat à la hache noble, c'est un combat déjà qui n'est pas souvent étudié. Même au sein de la communauté des AMHE, il n'y a pas tant que ça de gens qui l'étudient, cette arme-là. On s'attend à ce que ce soit une arme de bourrin, et en fait on se rend compte que pas du tout. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que ça évoque un petit peu l'image qu'on peut avoir parfois sur la période médiévale, qu'on imagine comme étant une période extrêmement violente, sale, obscurantiste et tout ça. Et en fait, quand on explore un peu, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Qu'en fait, c'est beaucoup plus raffiné, lumineux et propre, si je puis dire, que ce qu'on a longtemps cru. Et pour moi, ça fait un peu écho à ça. Voilà, la pratique de l'âge. Ça pourrait paraître brutal comme ça, parce qu'effectivement quand on voit l'arme, on se dit, c'est grand, enfin voilà. Mais en fait, quand on s'intéresse un peu au texte qui explique comment on utilise cette arme, on se rend compte que pas du tout. Alors que oui, alors il peut y avoir des coups un peu violents, ça c'est un peu le but, on va dire. Mais il y a aussi tout un panel de techniques, finalement, qui sont extrêmement fines, qui permet justement de passer, on va dire, un peu en finesse sous les plaques, sous l'armure, enfin dans les failles. Avec aussi tout le jeu, tout un jeu de feintes, un jeu de crochetage, des choses comme ça. Et en fait, ce qui peut vraiment surprendre un novice en la matière, c'est que la hache, c'est une arme longue, mais qui s'utilise au corps à corps.
Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, le côté corps à corps, en fait, avec ce grand bazar, ce grand manche-là. J'aime bien le fait qu'on tienne une hache à deux mains, et puis qu'il y ait différentes possibilités, qu'on puisse porter des coups un petit peu loin, mais aussi très près, et puis que, au bout d'un moment, si on n'a plus l'arme en main, c'est pas grave, on empoigne l'adversaire, et puis on le met par terre. Des fois, on aimerait bien se parer un peu plus entre filles, mais globalement, on arrive quand même à faire des sparrings intéressants avec une personne du genre opposé. Donc, c'est toujours une expérience unique, en fait, malgré tout, parce qu'on a tous des gabarits différents. Des grands, des petits, des maigres, des tassés, des trapus, des gros, voilà. Et du coup, on n'a pas de complexe, en fait, vis-à-vis de son propre corps. Donc déjà, ça, c'est très agréable.
C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, enfin, qu'on n'ait pas plus de copines, finalement. C'est vrai qu'on a encore l'idée que le guerrier, c'est forcément un guerrier. Ça peut pas non plus être une guerrière. Et puis il y a peut-être le côté aussi sociétal de les filles doivent être gentilles, douces, attentionnées, à l'écoute, et surtout pas taper fort, aller doucement, etc. Alors que là, on va vous demander de tout d'un coup penser l'inverse en disant non, il faut prendre votre place, se donner, pouvoir donner ce, corporellement, en fait, hein, quand on donne un coup, si on est toujours dans la retenue, c'est là où on peut avoir des blessures, hein, tout simplement, que ce soit l'autre ou nous-mêmes. Alors que justement, si on se donne, le risque de blessure quand même diminue. Et c'est vrai qu'on le ressent même, parce que j'enseigne aussi la posture, hein, on voit bien que les filles sont toujours très ramassées sur elles-mêmes, ne pas prendre de place, ne pas faire de vagues. Il y a un gros travail à faire là-dessus, et aussi, ben, faut dire, hein, il faut que les filles viennent, osent passer le pas. L'épée parle toujours vrai, donc en fait, on va aller toucher vraiment le cœur de la personne, l'âme de la personne, en fait, à travers l'arme. Beaucoup de plaisir, en fait, finalement, c'est l'échange, des rencontres aussi. Donc il y a vraiment ce plaisir-là d'échange, très vaste, hein, parce que ça, nous, dans notre pratique, on échange avec les armes, à la main, on échange aussi sur les traités, et finalement, en fait, les personnes, ça devient aussi des amis, donc, et des amis à travers toute la France et même l'Europe. Avec une épée, on ne se sent jamais seul.
Voilà, vous venez de franchir la porte temporelle des AMHE. Il y aura forcément un club pas trop loin de chez vous. Pour le trouver, rendez-vous sur le site de la Fédération.
Yeah.